Chapitre 6. Simon, qui était habitué à s'exprimer devant des amphithéâtres de plusieurs centaines de personnes, voire devant des caméras, ça lui était arrivé autrefois de servir d'expert en sociologie sur des plateaux de chaînes d'infos, était intimidé comme un gamin le jour de sa première entrée dans une nouvelle école. Car cet établissement-là s'appelait l'Élysée, rien que ça. Les fonctionnaires de la DGSI avaient été clairs. Pour l'heure, on ne faisait que le sonder. Rien n'était encore acté. Ils avaient vérifié ses antécédents, lui avaient posé une myriade de questions, parfois intimes, pour le décortiquer dans les moindres détails, avant de conclure qu'il était clean. Bon pour le service. La suite n'intéressait plus le renseignement intérieur. La suite était dans les mains du cabinet présidentiel. Rien que ça. Du coup, il se sentait aussi anxieux que s'il passait un examen, ce qui ne lui était plus arrivé depuis une éternité. Bon élève studieux, il avait eu ses diplômes très jeune, et avec désormais 45 ans au compteur, il n'avait aucune raison de se soumettre à une étude des compétences exercées pendant presque la moitié de sa vie. Pour lui qui n'éprouvait plus grand-chose depuis 6 mois, c'était une surprise. Il avait mis le temps du trajet pour comprendre. Ce n'était pas l'institution qui l'impressionnait. C'était sa propre haine, et sa capacité à la restituer. C'était l'unique raison pour laquelle il avait accepté cette convocation. Dire aux représentants de l'État, quel qu'il soit, tout le mal qu'ils pensaient d'eux. De leur politique stérile, sans aucune vision réelle. De leur égoïsme, de l'injustice du monde, de... Il avait tant de colère à la bouche qu'il craignait que les mots lui manquent. Il n'était pas dupe. Ça ne servira à rien, sinon à se convaincre qu'il aurait au moins fait ça, au nom de Pierre. Simon réalisait qu'il avait besoin d'être entendu. Et il les considérait comme responsables de la mort de son fils. Il cracherait ce qu'il avait sur la conscience, et plus rien ne le retiendra alors dans ce monde. On lui avait dit de se présenter sur le côté du palais. Il déclina son identité lorsqu'il parvint au barrage dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, précisant qu'il avait rendez-vous. Le flic en poste s'éloigna de quelques mètres, parla dans son talkie, et lorsque la réponse tomba, il fit signe à Simon d'approcher. C'était aussi simple que cela. On lui indiqua la petite rue qui courait sur le côté, la rue de l'Élysée, justement. Et il vint s'adresser aux deux autres policiers en uniforme qui en gardaient l'entrée. De là, on l'emmena jusqu'à la porte cochère, assez discrète, sur le flanc du palais. Et après avoir présenté sa pièce d'identité, franchi un portique de sécurité, ce fut fait. Il était au centre du pouvoir de son pays. Aussi rapidement que ça, Simon n'en revenait pas. Il patienta une dizaine de minutes dans une pièce affichant un portrait de la présidente de la République et se planta devant elle. Classique. Sourire rassurant, coiffure parfaitement lisse, tailleur pantalon sobre. Simon ne la portait pas dans son cœur, mais lui reconnaissait un talent unique pour les joutes oratoires. Et il en fallait pour accéder à la fonction reine en étant une femme. Dans ce pays qui se disait en constante évolution, ouverture maximale vers l'égalité et l'inclusion, lorsqu'il fallait passer la barrière des urnes, les vieux réflexes machistes revenaient à la charge. Elle était la première. Il en avait fallu du temps pour que ça arrive. Et elle avait été élue non pas parce qu'elle était une femme, mais bien à l'aune de ses compétences, du programme exposé, et surtout de la foi du peuple en sa capacité à le faire appliquer. Pour la première fois, ce soir de second tour, Simon s'était dit que la France avait réellement évolué. Monsieur Prévine ? Fit une voix dans son dos. « Je suis Mathéo Villon. » Mathéo Villon avait la trentaine, costume impeccable, mais pas de cravate, comme c'était devenu courant parmi les politiques modernes. La cravate datait d'un autre âge pour la plupart d'entre eux. Barbe de 5 jours, cheveux faussement hirsutes, le mouvement figé par la cire témoignait du temps passé à donner cette illusion. L'homme tendait une main très blanche, aux doigts fins et courts, vers Simon, qui la serra. « Pardon, j'étais... » Il désigna le portrait présidentiel. La présidente vous prie de l'excuser. Elle ne pourra se joindre à nous. Mais je suis un de ses conseillers en charge des questions de sécurité. Venez, suivez-moi. Première fois au palais ? Simon acquiesça pour la forme, sans trahir sa surprise. La présidente était prévue à l'ordre du jour ? S'étouffa-t-il intérieurement. La DGSI avait joué les mystérieuses. Et Simon s'était imaginé diverses raisons à cette volonté de le rencontrer. Aucune n'incluait la présidence. Il savait que l'Élysée prenait au sérieux les mouvements de pensée qui secouaient la société, les changements de mentalité, les inquiétudes nouvelles, les revendications d'une société encore plus ouverte, des jeunes notamment, mais pas seulement. Il y avait eu de nombreuses ruptures dernièrement entre les générations, et le gouvernement se devait de comprendre ces fractures entre les strates de la société pour mieux continuer à les manipuler. En sociologue qui publie, mais qui ne fait pas de vagues, Simon s'estimait un candidat sérieux pour jouer les interfaces. Ils allaient lui proposer une mission de synthèse, de les aider à analyser ce mouvement, peut-être pour l'instrumentaliser par la suite. C'était ce qu'il présupposait. Et il comptait bien les envoyer paître, mais à sa manière. Et ses raisons allaient les crucifier. Il voulait les accabler. Qu'ils se sentent vraiment responsables pour la mort de Pierre. À bien y réfléchir, le coup de la présidente n'était qu'une manœuvre, réalisa Simon. Elle n'avait jamais été prévue, bien sûr que non. Une remarque pour lui donner l'impression d'être important. Ce Matteo Villon était un vil stratège. Mais fallait-il s'en étonner? Ils sortirent sur le gravier de la grande cour. Simon découvrait ce lieu qu'il avait tant de fois vu à la télévision. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui, enfin, je voyais ça plus grand. Ça fait toujours ça. Venez, nous allons entrer par le vestibule d'honneur. Nous avons une salle au premier. Simon n'en ratait pas une miette. Il lui semblait qu'il pouvait à tout instant croiser un des puissants de ce monde. Là, en chair et en os, face à lui, simple mortel, prof de sociaux, adepte du jogging et du jazz, profondément seul dans son trois pièces d'ici les Moulineaux et vivant aux portes de la mort. Et que ferait-il d'une pareille rencontre? Aurait-il le pouvoir, par ses mots, de leur faire prendre conscience de leurs erreurs, de leurs mensonges, de l'état réel du monde à cause de ce qu'ils avaient fait ou n'avaient justement pas fait? Tout ça n'avait aucun sens. Des murs aux drapeaux, en passant par le tapis rouge encore présent sur le sol marbré, Simon enregistrait chaque détail, comme s'il voulait en arracher des souvenirs. À peine entrés, ils croisèrent plusieurs personnes qui pressaient le pas, le nez sur leur dossier, et Simon perçut une certaine tension dans le palais. Matteo le guida vers le grand escalier, qu'ils gravirent jusqu'à l'étage, où un concert de téléphone retentissait entre des dizaines de voix au débit de mitraillettes. Là encore, plusieurs silhouettes passaient d'une porte à l'autre, d'un pas alerte, mine grave, et l'impression qu'une chape de plomb recouvrait ses bureaux s'intensifia. Matteo referma la porte du salon dont les hautes fenêtres donnaient sur le jardin et désigna un plateau sur lequel étaient disposés verres, bouteilles d'eau plate et gazeuse et jus d'orange, et invita Simon à se servir, avant de s'asseoir en face à la longue table qui occupait la moitié de la pièce. Ainsi isolée, la ruche autour parut s'apaiser. « Merci d'avoir accepté de venir. C'est important pour nous. »
« Attends, mon coco, que je te jette au visage le fiel que tu mérites. Mais vas-y, déroule-moi ton baratin. »
Simon n'était pas encore assez à l'aise pour attaquer. Il préférait laisser venir, le temps de se familiariser. Matteo Villon afficha une moue faussement inquiète. « Pardonnez-moi. La situation ne me permet pas de perdre du temps en cirage de pompe et autres banalités habituelles. Je me dois d'aller droit au but. Vous devez vous demander ce que vous faites là, n'est-ce pas ?» Matteo ouvrit sa main en grand devant lui, tête penchée. Grand prince, il enchaîna. Laissez-moi vous éclairer. Vous êtes Simon Privine, sociologue, et vous avez écrit notamment sur la complémentarité de groupe, sur les critères de sélection qui apportent une dynamique positive ou négative à une collectivité. C'est grossièrement résumé, mais on s'en approche. Quelqu'un passa juste derrière la porte du salon en criant « Il me le faut pour ce soir! Tu réalises l'urgence dans laquelle nous... » Matteo fit signe qu'il était désolé de cette interruption et poursuivit. « Nous avons besoin de votre expertise. » Voyez-vous, il s'est... » Son portable se mit à vibrer dans sa poche de veste. Il le fit taire d'un geste rapide. « Comment avez-vous eu mon nom ?» demanda Simon. « Justement, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui soit un expert en complémentarité de groupe, en critères de sélection. Dans ce domaine, c'est vous qui faites autorité. » Son téléphone vibra à nouveau et cette fois il le sortit de sa veste pour le couper. « Ça semble urgent, vous devriez répondre. » ironisa Simon. Croyez-moi, l'urgence est permanente aujourd'hui. Comme pour souligner son propos, quelqu'un passa en courant dans le couloir derrière leur porte, ce qui étonna Simon. L'Élysée semblait vraiment en pleine confusion, et l'espace d'un instant, il se demanda s'il n'était pas en train de déclarer une guerre ou quelque chose d'aussi dramatique. Mon ancien prof de Sciences Po ne tarit pas d'éloges à votre égard, ajouta Matteo. J'ai consulté votre profil Internet et...
Mon profil Internet ?
Oui, Wikipédia, Google, un peu de réseaux sociaux.
On en est là ?
À sélectionner dans l'urgence des spécialistes par leur fiche Wikipédia ? Simon se demandait à quel moment ils allaient lui jouer la carte du « Et nous avons appris que votre fils est mort à cause d'une tempête, donc vous serez super motivé pour nous aider à améliorer la situation globale de la France. » Si ce Matteo osait, Simon le passerait par la fenêtre. Et ce n'était pas une métaphore. Mon ancien prof vous recommandait. Et j'ai une haute estime de son opinion. Validation du sérail universitaire en quelque sorte. La DGSI nous a donné le feu vert après une rapide enquête. Et vous voilà. Simon soupira, abattu. C'est ça le gouvernement aujourd'hui ? Ne vous faites aucune illusion. Ça fonctionne ainsi depuis longtemps. J'en ai peur. Simon haussa les sourcils. Faut pas s'étonner de l'état du pays. Et du monde, je... Cette fois, c'était deux personnes qui s'engueulaient juste sur le palier et qui interrompirent Simon. Mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? S'agaça-t-il. Matteo soupira, l'air grave. Il désigna la porte du pouce. C'est pour cette raison que vous êtes là. La situation est... grave. Simon reprenait enfin un peu le contrôle. Il avait été impressionné en arrivant, et il était encore un peu face à la puissance de l'histoire de ces lieux, de leurs symboles, mais le jeune hableur ne lui faisait plus aucun effet. Simon sentait son assurance revenir, et avec elle, le bouillonnement ardent qui l'avait poussé à accepter l'invitation. « Oh, épargnez-moi les conneries autour de l'état du pays, du besoin de fraternité citoyenne, voulez-vous ? Je ne suis pas sensible à ces sermons. J'ai perdu foi en vous, en notre soi-disant république. Mon fils est mort de votre incapacité à prendre courageusement des mesures difficiles, mais efficaces. Parce que vous et vos prédécesseurs n'êtes que des carriéristes, et que rien dans vos actions n'est au service véritable de nos besoins. » Matteo Villon ne broncha pas. Il se contenta de répliquer « Simon, la France a besoin de vous. » L'injonction, aussi ridicule qu'inattendue, faillit faire exploser le sociologue. Mais il se retint. Il ne voulait pas perdre le contrôle. Il voulait pouvoir choisir ses mots, ne rien oublier, faire mal. Que ce Matteo prenne pour les autres. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je viens de vous dire ? Je ne suis pas au service de la France. Nos petits jeux de nations individualistes ont conduit la planète à la ruine, et mon fils est mort de nos comportements, de vos conneries de politiciens. Je ne sers que l'humanité, si tant est qu'il en reste. Le conseiller présidentiel ouvrit la bouche, mais Simon le fit taire d'un index impérieux. « Attendez que je vous serve vos quatre vérités, et vous verrez si vous avez encore besoin de moi. » Matteo accusa le coup. Et pour la première fois, un soupçon d'émotion non feinte fit briller son regard. Il acquiesça lentement. « Je vois de la colère à mon égard, » dit-il. « Je ne suis pas aussi stupide que vous semblez le penser. » Et même si cet endroit vous est aussi désagréable que j'en ai l'impression, laissez-moi vous expliquer la situation. Accordez-moi ces quelques minutes, et ensuite, vous pourrez me dire ce que vous avez sur le cœur. » Il s'interrompit, le temps que les nouvelles voix qui venaient d'émerger depuis le couloir s'estompent, et conclut. « Nous ne venons pas vous proposer une mission, Simon. Nous venons vous supplier de nous aider. » Cette fois, Simon sentit sa rage redescendre dans ses tripes. Il lisait un étrange mélange de sentiments sur le visage de Matteo Villon. De la confusion, du désarroi et de la peur.